Barbie doll eyes, my fingers down your actress. One more time. Sac.
C'est à vous, Mathieu.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir 89.4 qui commence. Donc ce soir on a un invité et on va peut-être squatter l'antenne longtemps parce qu'on va peut-être s'incruster dans le chien et loup qui suivra. Cet invité, parce que lui il y sera, c'est Daniel.
Salut, salut.
Voilà, et on invite ce soir
mon salut, camarade.
Forcément pour la musique, même si c'est lui qui a fait la playlist. Pour son zine, enfin je sais pas comment appeler ça, parce que fanzine, ça correspond pas tout à fait à ma vision du fanzine renéotypé.
Non, c'est un fanzine chic.
Des années glanches,
chic, faut dire. Radical, chic. Et en couleur.
C'est un fanzine chic. Comment on disait dans les années 80, c'était chic et.
Chic et choc.
Chic et choc, ou un truc comme ça.
Bon, ouais, ouais, mais bon, en même temps,
ouais,
il est vachement bien.
C'est pas très important, la dénomination.
Ouais. Ouais,
je pense, hein, c'est de la presse alternative pour moi. Moi, je dis ça.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à un fanzine. C'est un dos carré collé, imprimé, ce qui le rapproche de la revue, mais on s'est fait refuser une subvention par le. C'est déjà qu'on ne demande jamais de subvention. Par le CNL, le Centre National du Livre, parce que pour eux c'était pas une revue parce que ça apparaît de plusieurs thèmes.
D'accord.
Tu vois, donc ils savaient pas dans quelle case nous mettre. Ils ont beaucoup aimé, donc au lieu de se dire on aime bien, on les met dans n'importe quelle case.
On s'en fout, oui.
Voilà, ils nous ont mis dans aucune case, ils nous ont renvoyé le bébé en disant bah non, on peut pas soutenir, même si on aime beaucoup. Bon, c'est l'administration. Mais donc voilà, c'est un. Et puis il y a aussi l'appellation prosine, mais j'aime pas parce que ça voudrait que je ferais du prosina, ce qui m'embête politiquement. Voilà, moi je dis que c'est de la presse alternative. Je suis pour. On a fait des initiatives en 2011 à l'issue quand il y a eu les 20 ans du Chien Bibi. Je suis pour qu'on se fédère tous la presse alternative. Hier, j'étais en pleine discussion avec Mathéo de CQFD. Voilà, entre ceux qui, que ce soit chez Prestalis, que ce soit les petits fanzines sérigraphiés, un bel objet, ou les trucs qui tirent à 50 exemplaires, ou etc. Je pense que tous ceux qui font quelque chose en dehors des contingences publiques, rédactionnelles et.
C'est ceux qui n'ont pas d'actionnaires majoritaires, en fait.
Voilà.
Ceux qui n'ont pas d'actionnaires du tout.
Qui mettent pas de pub, qui. Enfin, voilà, quel que soit ça, parce que c'est. C'est faire sa propre presse soi-même, hein. c'est ce que disait Joe Biafra, quoi. Don't hate the media, be the media.
Et donc, les auditeurs ont compris que le nom de la revue, c'est Chéri Bibi.
Ils ont compris que j'étais bavard.
Voilà, et donc.
Ils ont compris plein de trucs.
Ils ont compris plein de trucs d'un coup. Et moi, je vous les recommande, parce que même les anciens numéros, on peut les trouver dans différentes librairies. Ou s'adresser à toi directement.
Vous pouvez voir, il y a la liste des librairies, enfin des endroits, mais c'est aussi des disquaires, des tatoueurs, des bars, tous ces lieux malfamés, qui nous diffusent à travers la France sur www.chéribi.net dans la rubrique No Dealer. Voilà, normalement, bon, en l'occurrence, on est diffé à Publico. On n'a pas encore déposé le nouveau parce qu'on n'a pas de diffuseur, donc on a distributeur, donc on fait la diffusion à dos d'hommes ou de femmes. Voilà,
c'est. Et parce qu'il faut dire que l'émission tombe à un moment particulièrement stratégique puisque le dernier Chéri Bibi est sorti. Donc là, c'est un plan marketing.
Voilà, c'était pas prévu.
Tout avait été prévu depuis 6 mois, en fait, voilà, hein, il faut vous le dire.
Il est sorti, ouais, on l'a reçu de l'imprimeur il y a une bonne semaine, il y a une bonne dizaine de jours. On a commencé à le diffuser de ci, de là.
Ouais, et en fait, il reste du coup à l'antenne jusqu'à la vente du dernier numéro.
Donc,
ça commence maintenant.
Et voilà, puis demain, si vous êtes invité, demain, on fait un pot de sortie. De 17h à 19h, je leur dirai peut-être dans 2h, quand vous l'aurez oublié, mais on fait un pot de sortie de 17h à 19h devant la librairie Un Regard Moderne. 10 rue Gilles-Cœur à Saint-Michel, vous comprendrez si vous connaissez la librairie pourquoi c'est devant et pas dedans.
Oui, parce que dedans c'est tout petit.
Voilà, mais bon, ça c'est vraiment un soutien à cette librairie parce qu'on a commencé le zine en 91 et la librairie Un Regard Moderne date aussi de 91. Jacques Noël, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Nous a toujours soutenu, mais en l'occurrence, je suis un peu le seul élément depuis 91, m'a toujours soutenu. C'est-à-dire, quand je lui ai amené un fanzine photocopié, tout plein de pliages débiles, voilà, il le prenait et maintenant il le prend toujours.
Il y a José qui nous rejoint.
Voilà, donc ça c'est très important, Un Regard Moderne, très très bonne librairie, 10 rue Gilles-Cœur, c'est 17h à 19h et après, on continue au bar Le Manche Disque qui est 50 rue de Romainville, métro mairie de Montreuil. Plus tard, voilà. Et au chaud.
parce que maintenant, devant Un Regard Moderne, C'est osé.
Oui, oui, mais ouais. Maintenant, c'est vraiment un truc. Moi, je pense que c'est important des librairies comme ça qu'il faut les soutenir. Quoi.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des librairies comme ça.
Il n'y en a même aucune autre sur Paris. Enfin, maintenant, c'est vrai que tout ce qu'ils vendent, toutes les curiosités qu'ils diffusent, maintenant, on peut les retrouver un peu ailleurs parce que je pense que les diffuseurs et autres sont un peu plus curieux. C'est quand même une librairie spécialisée en situationniste, anarchiste, érotiste, tout plein de trucs en iste, vu que j'aime pas les ismes.
On se fait deux mots sur le sommaire, Michel.
Ouais, le sommaire, il y a
dans ce nouveau numéro extraordinaire.
Donc ça, c'est déjà intéressant et relativement rare en France. Et alors encore plus rare maintenant, il y a une interview de Gainsbourg.
Ouais, inédite. On les nique tous.
Mais ça a été fait avant-hier ou...
Écoute, on a un ami spirit
performant.
Non, ça a été fait en fait. Ça a été fait en 1980, fin 80. En fait, il y a une page qui a été publiée, il y a une page d'extrait de l'interview qui a été publiée dans Le Soldat, à qui on rend hommage, qui était le journal des comités de soldats, c'est-à-dire qui se battait pour les droits des soldats du contingent, dont le droit de se syndiquer. Et qui a eu une existence clandestine pendant des années. Et en fait, il se trouve que le camarade Michel Narbonne, qui a fait l'interview à l'époque, est ivrien comme moi, d'Ivry-sur-Seine, donc, et on s'est rencontrés dans le RER un jour, on parle interview, et il me dit, voilà, j'ai fait l'interview de Gainsbourg en 1980, c'était marrant, machin, voilà. Et on parle, il me montre finalement, on se revoit quelques jours après, il me montre le journal, il y a ce qui se fait dans la presse, c'est-à-dire même si c'était de la presse militante en l'occurrence, c'est une page d'extrait avec quelques bons mots par rapport surtout au... Mais il me dit, j'ai la cassette.
Oh.
Donc je lui ai pris sa cassette, j'ai retranscrit il y a une bonne demi-heure d'interview, et en fait je discute de ça avec un pote qui est Marc Pateau, qui est un photographe d'Aubervilliers, et il me dit, ah bah tiens, ça tombe bien, moi j'ai des photos inédites de Gainsbourg qu'on a fait en 1988 avec Pierre Terrasson, qui était donc un photographe, qui est un photographe d'Aubervilliers, qui a fait beaucoup de photos entre guillemets de showbiz et de chansonniers et autres. Et lui, il a fait, en fait, le pote Marc a fait des photos de la séance de photos, quoi. Au commissaire d'Aubervilliers, donc avec. Enfin, c'était un faux truc, hein, avec Gainsbourg avec les menottes, devant un.
You're under arrest.
Flic et tout ça, voilà, bah, c'était à l'époque de ça. Et du coup, bah, on se retrouve, non seulement on fait. Voilà, on se retrouve. Alors, c'était marrant parce que. C'est vrai que nous, on est plus habitués à sortir des choses un peu plus rares. Hein,
un peu plus.
Mais moi, ça me plaisait pour plusieurs raisons. D'une part, parce que. Ça faisait un peu la nique à toute cette presse méprisante de hype qui de plus en plus prétend s'intéresser à la culture populaire alors que c'est que de la hype pour faire frémir les bourgeois.
Noise Magazine, pardon.
Il y en a plein qui généralement sont de format, soit qui ont des noms en rappelant Elliot Ness, soit qui ont des formats
il y a carrément la grosse presse.
Et qui prétendent de parler de culture populaire alors qu'ils coûtent 14,99€. Bon bref, on s'en fout. Donc ça me plaisait un peu de leur faire la nique à tous ces cons. D'autre part, l'interview est très marrante parce que le Michel Narbonne n'est pas du tout un intervieweur professionnel. Donc il lui pose des questions des fois très, je dirais pas naïf, c'est peut-être, mais je veux pas paraître méprisant, hein, mais je veux dire très normal, quoi, un peu. Tiens, qu'est-ce que t'aimes comme film? Alors voilà, on apprend que Gainsbourg il kiffe Délivrance et Taxi Driver. Enfin voilà, elle est très naturelle, quoi. Elle se fait même quand on l'écoute, à l'écoute, j'étais mort de rire. Il était quand même bien largué. Et ensuite, eh ben, évidemment, et aussi la chose, c'est que d'une part, c'est un grand artiste populaire, moi c'est ce que je considère, hein, même si, enfin, je veux dire, dans tous les sens du terme, au sens populaire, grand succès, et au sens, qui n'avait pas été fait par des études de marché, qui n'a pas été fabriqué par les studios, et qui a, enfin, voilà, qui a un artiste important, si ce n'est majeur. Et en plus, comme on s'intéresse au reggae, c'était quand même en décembre 1980, donc c'est juste après l'affaire
c'est
des paras.
C'est lui qui a importé le reggae en France quand même.
C'est lui qui a fait les premiers trucs, donc là j'ai fait la rubrique du coup Reggae Motion sur les adaptations jamaïcaines de Je t'aime moi non plus, antérieure à ses albums reggae. Voilà, donc c'est...
Et justement, ouais, tu parles de grands chanteurs populaires et tout ça, mais Michel Sardou, il n'est pas marketing, il est populaire. Justement, vous voulez te poser une question là-dessus. C'est quoi la frontière du populaire, justement, dans Chéri Bibi, quoi?
Bah écoute, il y a Mathéo de CQFD qui m'a posé la même question hier.
Michel Sardou, c'est une bonne question.
J'ai reçu une interview par mail du camarade Jeff qui fait le fanzine Up The Zine, que je vous conseille, qui est un fanzine entièrement consacré au fanzine. Donc interview des fanzineux et qui chronique des fanzines. Et il m'a reposé la même question. C'est un peu
c'est normal.
Ou le Pontozane.
Il y a une ambiance Sardou en ce moment.
Non, c'est toujours le truc qui revient. C'est qu'est-ce qu'on met comme définition de populaire.
Sachant que c'est ta ligne éditoriale, il faut le dire quand même. Hein.
Ouais, c'est ma ligne éditoriale. Le projet oui, tout à fait. Enfin, le projet depuis qu'on a fait la nouvelle formule, qu'on a voulu un peu. Bah, avant, c'était un peu foutraque. Hein, on mettait un peu tout et n'importe quoi.
Parce que j'ai le Biafra, c'est pas super populaire. Là,
non sens. Mais nous, on prend. Enfin, moi, j'ai décidé. J'ai pris le parti pris. Hein, c'est le parti pris qu'on peut qualifier de politique et de ou plus simplement de. Bah, c'est comme ça. Et puis, si t'es pas content, t'as qu'à lire autre chose. c'est de prendre le mot populaire selon la première définition du dictionnaire, c'est-à-dire la toute première, celle qui arrive en premier, avant populaire dans le sens largement connu, c'est par le peuple, issu du peuple, en direction du peuple. En gros, tout ça, et ça, c'est d'ailleurs ce qui est pas une définition uniforme, puisque ça peut provenir du peuple et pas spécialement être en destination du peuple.
C'est pas forcément sympa, hein, provenir du peuple.
Et ça peut... attends, ça, c'est la deuxième partie. De et ça tiroir, la question que t'as posée, là, t'as déclenché un truc, tu vas regretter. Et ensuite, ça peut être en direction du peuple et pas forcément provenir du peuple. Bon.
Donc, je te coupe juste avant que tu en lances le deuxième étage. Donc, ça veut dire que.
Oui, parce que tu as eu un essai qui a été réussi. Je vais faire pareil, ça retombe en mer, ça crame tout.
Donc, ça veut dire que dans la revue, pour les gens qui ne connaissent pas, quand même, donc tu trouves effectivement des interviews de Gainsbourg ou Jello Biafra. Donc,
le chanteur de Dead Kennedys, dont on a passé un morceau.
Dead Kennedys, qui était à l'ouverture de l'émission. Et tu trouves quoi d'autre? Alors, dis-nous un petit peu. Donc, il est question de cinéma, il est question de bouquins, il est question de sport, de musique. Tu as parlé de reggae aussi tout à l'heure.
Ouais, tout ça.
Voilà.
Il y a systématiquement du cinoche, de la musique et de la littérature. Et de temps en temps, il y a d'autres choses comme du théâtre, du sport ou des arts martiaux, enfin, je veux dire, des pratiques physiques. Voilà.
Souvent des choses considérées comme mineures, comme la SF, littérature de gare, etc., avec mépris.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours le paradoxe. Mais là, on avait fait l'avant-dernier numéro sur la science-fiction. C'est le paradoxe. Il y avait une interview de Marc Caro et on en parlait. C'est que la SF est considérée comme un genre mineur, mais aujourd'hui, les plus grosses entrées blockbusters au cinéma qui rapportent le plus de caillasses, c'est Avengers, c'est Avatar, enfin c'est de la SF.
Il y a une excellente interview que je vous conseille de Norman Spinrad, qui donne juste envie d'en lire tout le temps. Elle est vraiment excellente.
Ah, donc,
dans le numéro...
Je croyais d'une autre, parce que moi j'adore les interviews de Norman Spinrad. Non, le problème que j'ai eu quand je l'ai fait, c'est qu'il a voulu... Je lui ai demandé s'il voulait la faire en français et en anglais, puisque je savais qu'il avait vécu à Paris, donc il parlait un peu français. Il était très content, il va la faire en français. On aurait fait l'interview, elle aurait été deux fois plus longue en anglais dans le temps imparti. Bon. Mais oui, non, voilà. Donc, pour revenir à ça, je pense que la vraie question, nous on s'intéresse à des choses méconnues et des choses très connues, du moment que ça vient des classes populaires. Donc l'analyse à la base de ça est clairement marxiste. Marxiste et autres, et affinités, c'est-à-dire, voilà, on distingue une société, on a la conscience d'une société de classe, qui est ou pas une conscience de classe à la clé, que c'est une réalité, voilà, c'est une réalité, on est dans une conscience de classe. Mais après, ce qui est intéressant, c'est pas d'être binaire, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe. Je dis ça, juste ça, mais il y a un bouquin de photos qui sort dernièrement, là, qui s'appelle Viking et Panthère, qui est sorti par Sirius Publishing sur la bande des Dell Vikings, par exemple. J'ai vu un vieux reportage sur eux, qui était une bande de rockabilly. La plupart venaient des banlieues populaires de la ceinture parisienne, mais il y en avait un ou deux qui étaient des bourgeois en rupture de banc, comme chez les punks, etc. On sait très bien que dans les Clash, Joe Strummer venait d'un milieu bourgeois, Paul Simonon d'un milieu populaire. Bon.
Tout comme dans le public, hein. C'est oui. pas forcément oui, ceux qui sont sur scène.
Voilà, donc si tu veux, c'est plutôt l'affirmation d'une culture qui n'est pas fabriquée dans des laboratoires.
D'accord.
Et qui vient quand même, qu'elle soit d'ailleurs...
C'est ce que tu dis sur Gainsbourg au début. C'est-à-dire, en gros, les morceaux de Gainsbourg, ils n'ont pas été écrits par des produits marketing qui avaient un cœur de cible, comment dire, une étude de marché, etc., etc.
C'est ça, moi, un truc qui m'a beaucoup influencé là-dessus, outre donc, la définition du Larousse, qui m'a beaucoup influencé, c'est, je vous conseille à tous de lire ce bouquin, c'est la préface du bouquin de Nick Toschi, Zéro oublié du rock'n'roll, qui montre comment bah, les Winoni Harris, Wanda Jackson et tout faisaient ça avec les tripes, tout en voulant avoir une grosse cadiaque. Et pour continuer à militer dans une association de chômeurs que vous connaissez bien, qui s'appelle la PES, depuis des années, je trouve que là, pour le coup, c'est totalement petit bourgeois de faire des trucs genre journée sans achat ou de fustiger la consommation, machin. Moi, oui, t'as envie d'avoir des trucs que t'as pas et t'as envie de... Donc, je pense que la première richesse intéresse... Nous, je pense qu'on vient de classes sociales qui sont très riches, culturellement. Beaucoup plus riches que les classes qui sont riches possessivement. Faire des grandes phrases, mais donc c'est ça aussi qu'il faut que je pense que c'est important. Et puis il y a le plaisir de parler de ce qu'on a envie de parler aussi, mais c'est vrai que ça rencontre toujours ça.
On sent que ça, ouais, ça croise beaucoup ton histoire personnelle aussi. Hein. C'est aussi des choix qui viennent du cœur. Tu parles de choses que tu aimes, quoi.
Les histoires personnelles des gens qui participent aussi. Hein. J'écris pas tout, heureusement. Enfin, heureusement, pas pour la somme de travail. Je pense que je. Vu la somme de matos que j'ai, je pourrais, mais c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs...
On trouve un esprit, justement, en positif, c'est pas en négatif. Il n'y a pas ce côté, je fais un fanzine, je vais parler des trucs que je déteste, et je vais casser...
On n'a pas la place.
C'est ça.
On aimerait bien,
mais positif,
on n'a pas la place.
Ça parle que de choses qu'on a envie d'aimer.
C'est vrai que ça donne envie d'écouter, de lire... Il y a très longtemps, je voulais absolument faire un jour chroniquer un film qui est un des pires films du monde, qui s'appelle Cross... C'est un polar, vous avez jamais vu Cross?
Non.
C'est un polar avec Sardou dans le rôle du flic, tu sais, qui est incompris par ses hiérarchies, qui serre le poing, c'est dur parce que tu vois, il y va quoi. Enfin bon, c'est un espèce d'inspecteur Harry à la française avec Sardou dans le rôle de.
Make my day. Voilà, fais mon jour.
De Clint Eastwood, c'est ignoble. Mais on n'a pas la place à l'arrivée quoi. On n'a déjà pas la place de parler de tout ce qu'on aime.
Bah tant mieux.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des liens. C'est moins perceptible maintenant parce que je pense que la majorité de la presse s'en est aperçue, a fini par s'en apercevoir, mais je pense que quand on a sorti la nouvelle formule en 2007, quand on y a pensé en 2005, c'était pas encore le cas. C'est qu'on arrivait dans un truc où tout se compartimente. Tout est compartimenté.
Voilà. C'est ce que tu dis au sujet des subventions.
Oui, mais ça c'est une preuve.
Vous rentrez pas dans telle case, donc de toute façon on peut rien vous filer.
Mais tout est compartimenté maintenant. Alors que t'écoutes de la musique, tu vois des films, tu vois des films, t'écoutes de la zik, etc. Donc là, ça c'est un peu plus compris. Il y a de plus en plus la presse. Il y a un retour vers un éclectisme, y compris dans la presse commerciale. nous c'est sympa quoi.
D'accord, on va peut-être faire une petite pause musicale, vous avez le temps d'enchaîner une petite question, puis on va passer, parce que je vois que dans le tout nouveau, alors il arrive entre nos mains là, on n'a pas eu le temps de le lire, et on voit direct qu'il y a Judge Dredd en page 12, donc on va vous passer un petit morceau de Judge Dredd.
Il y a le chanteur anglais, je veux dire anglais.
Et la bande dessinée.
Et la bande dessinée, ouais.
Et alors qu'est-ce qui précède, le chanteur il s'est inspiré
Ce qui précède c'est le morceau de Prince Buster.
D'accord, ce qui précède c'est le morceau de Prince Buster.
Un morceau de Prince Buster qui s'appelle Judge Dredd, putain c'est con, j'aurais dû le ramener. Qui parle d'un juge qui fout des 400 ans de prison et tout ça. La chanson de Prince Buster a influencé le nom du chanteur anglais Judge Dredd. Et les scénaristes qui ont inventé le personnage de Jude Red, donc le flic futuriste, totalement facho, enfin totalement robotique, voilà, avaient écrit une première histoire où Jude Red s'appelait donc Dredd, comme les deux autres, qu'on Dredd effrayant, terrifiant, comme Dreadlocks. Et en fait, ils ont changé, à mon avis,
le nom,
l'orthographe, voilà. Mais après, c'est des suppositions, parce que dans tous les trucs que j'ai pu lire sur les histoires, enfin sur l'origine de Judge Dredd, personne ne le dit, mais il y a de fortes suppositions que les scénaristes et les auteurs de Judge Dredd, comme beaucoup de jeunes Anglais qui avaient une vingtaine d'années à la fin des années 60, début 70, aient dû passer par la case Razibus en bottes et en bretelles.
Et écoutant du ska.
Voilà. Donc ça, parce que ça se retrouve, il y a plein de références dans la BD. Donc c'était assez marrant, comme c'est un numéro quand même spécial Police Menottes de Prison.
Oui,
on l'a pas dit.
Qui tombe à pic d'ailleurs,
c'est un édito. J'aime la police. Voilà, un édito. J'aime la police.
Oui, mais alors, quand j'ai fait l'édito, j'aime la police. J'ai d'un amour coupable, hein, faut le préciser.
Oui, c'est la deuxième.
C'était avant que tout le monde aime la police, donc je suis un peu dégoûté.
Je crois qu'on a trois appels en même temps. Là. Je
bon, on vous passe de la musique pour répondre aux trois appels d'auditeurs courroucés. This morning, I landed on the rock. I've come all the way to Jamaica just to give the girls some though we're living in the sun, playing guitar all day.
Can't have no more pussy. I stitched up half a should have stayed here in the sun playing guitar all day boogalooing with my friends in a ratty.
Oui, bonsoir, vous êtes toujours à Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, c'est ça la fréquence. Donc Jean-Mathias au micro, Michel, José, et puis notre invité surtout, Daniel de Chéri Bibi. Donc qui va nous parler de Chéri Bibi, on a dit quoi, revue, fanzine, qu'est-ce qu'on a dit culture populaire, c'est ça, voilà.
Objet de culture populaire.
Objet de culture populaire.
Qui se lie aux chiottes, même sans connexion à ADSL.
Voilà, avec du vrai papier.
Ouais.
Et puis en particulier, du dernier numéro, donc le numéro 9, qui est tout frais, là, qui sort. Voilà. On vous redira un petit peu demain, pour demain, la petite teuf, les petites teufs de sortie. Voilà. Alors, on a évoqué Gainsbourg, on n'a pas trop parlé de Biafra, qui est aussi sur la couverture du dernier Chéri Bibi. Donc, Jello Biafra, on a passé tout à l'heure en intro un morceau de Dead Kennedys. Donc, tu as rencontré Jello Biafra ?
Ouais.
Le ?
Ouais,
le
ouais, c'était un vieux rêve hein, quand même, parce que c'est un peu... s'il m'avait bien mis une claque quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai découvert les Dead Kennedys. Donc,
tu rappelles en deux mots pour
la ouais, alors, les Dead Kennedys, c'est un groupe de la fin des années 70, issu de Californie, jusqu'en. Je crois qu'ils sont splittés en 87, par là. Joe Biafra a continué après de son côté. Voilà, c'est un groupe. Des débuts du punk hardcore américain, très 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 véhément dans les textes, avec de longs textes, presque l'équivalent de slam plutôt que de.
De crasse pour les Anglais, admettons.
Ouais, un peu ça, mais avec plus de sens de l'humour que crasse. On en parle d'ailleurs avec lui dans l'interview sur la question du sens de l'humour qui est très intéressant. Et bon, voilà, un groupe très très politisé. Du punk et avec une pêche totale, et c'était un vieux rêve de et Jello Biafra, qui est un activiste politique, qui s'était présenté à la mairie de San Francisco en 79, qui maintenant milite avec le Parti Vert américain, qui on peut dire pour les Américains un peu gauchiste quoi, donc ça peut l'être. Bon, qui est quand même voilà, qui est un activiste politique et musical, donc une grande figure du punk, et c'était assez marrant, c'est pour ça que j'ai mis les deux noms en couverture, déjà ça faisait un jeu graphique, et puis ça faisait longtemps que je voulais faire une couverture typographique un peu à la constructiviste, là. Enfin de loin, c'était un peu l'idée, d'habitude on met pas forcément les têtes d'affiche qu'il y a dedans en couverture. Là c'était justement de mettre Gainsbourg chez Biafra, c'était un peu puis maintenant qu'est-ce que c'est un problème enfin tu vois, c'est...
d'ailleurs les couvertures sont toujours assez belles, ouais. On les repère de loin hein. Sont toujours très très marquées,
ouais, c'est ça. On aurait dû mettre Nespresso et Georges Clooney. Mais les couvertures, alors il y a un truc quand même, j'aimerais faire remarquer à tous les gens qui ont des velléités de faire du graphisme ou qu'en font, c'est que les couvertures sur paire sont sur paire de loin, c'est vrai. Je vais pas me lancer des voilà, mais bon, c'est des, je pense, des constatations. Est sur paire assez vite comme étant des couvertures du Chéri Bibi, mais je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de logo.
Aucun logo.
Chéri Bibi est écrit à chaque fois avec une typo différente, et que malgré tout, et c'est là tout le jeu graphique, qu'elle se repère en tant que couverture du Chéri Bibi. Donc c'est pour ça que Jean Klein, nos chers auditeurs qui font du graphisme, a se débarrassé des logos.
À préfère de marketing.
Arrêter avec les techniques marketing, arrêter de prendre des villes pour des marques, des associations pour des marques, et laisser les logos aux marques. D'ailleurs, Heineken, qui est sous notre nez, par hasard, a une étoile rouge, et ce symbole n'appartient pas à Heineken. Certains à Radio Libertaire l'ignorent peut-être. Voilà. C'est en référence à une chanson d'Indochine, une étoile rouge apparaît. Les Tsars, avec un clip de Marc Caro, d'ailleurs, interviewé dans.
Une étoile rouge appartient à Indochine,
non, c'était. Tu te rappelles pas la chanson Les Tsars ? Une étoile rouge à part. Le clip a été fait par Marc Caro, interviewé dans Chien Bibi numéro 8.
Malheureusement, on n'a pas le CD. Bon, tant pis, on n'écoutera pas d'Indochine ce soir. C'était une guerre, il me semble.
Oui. C'était il y a longtemps. Oui,
ça nous ramène à Sardou.
Oh non, pas lui.
Tu nous as pas dit, en fait, tu nous as pas posé la question, mais tu nous as pas parlé du titre.
C'est une référence à Gaston Leroux, ça.
D'accord, le vrai.
C'est une référence au personnage de Gaston Leroux, qui est un bagnard innocent, mais qui est obligé de devenir criminel pour tenter de prouver son innocence, comme beaucoup de gens. Voilà, c'est le mec qui a pas de bol. Et des fois, je me dis que j'aurais dû l'appeler autrement. J'aurais peut-être un peu plus de bol moi-même. Voilà, donc c'est un nom que j'aime bien parce que, si tu veux, c'est une référence à, pour le coup, un grand personnage de la culture populaire, de la littérature populaire, et de la culture populaire, puisque, par exemple, il y a Roger Trigeau, qui était un grand catcheur des années 60, qui s'est appelé Chéri Bibi, etc. Et à la fois, j'aimais bien le côté, ces suites, en fait, je raconte toujours l'histoire, mais je l'aime bien, c'est suite à une réflexion de chercher un nom, et puis une réflexion de mon père qui me dit, mais tu veux parler d'émeute urbaine, et tout ça, bah, vaut mieux appeler ton zine tendresse que Kalash. Voilà, et j'ai trouvé qu'il y a un côté aussi Chéri Bibi. Habibi, c'est chéri en arabe. Chez le bibi, c'est le chapeau. C'est soi-même. Chéri, c'est chéri. Et il y a un côté un peu pédé. J'aime bien.
Parfait. Une question à laquelle je tenais aussi, c'est par rapport, on en parlait un petit peu en antenne rapidement, donc on va vous faire part un petit peu de nos réflexions en antenne, par rapport au féminisme, ou en tout cas à l'antisexisme, c'est pas forcément du féminisme pur, en tout cas l'antisexisme, qui transparaît tout le long des numéros de Chéri Bibi, ce qui est assez étonnant, parce que dans le milieu, dans des zines qui parlent beaucoup de punk, etc., maintenant ça commence. À l'époque actuelle, il commence à y avoir beaucoup d'antisexisme qui apparaît en tout cas en surface. Et là, c'est vrai que tout le long, sans être forcément un militantisme flagrant, etc., dans beaucoup d'articles, on a ce souci-là qui apparaît. Quand il y a des articles sur le kung-fu féminin, sur du cinéma, où des femmes ont des rôles autres que la cruche de service, etc., ça transparaît. Est-ce que c'est vraiment un souci volontaire, je veux dire très... quel est le mot ? C'est l'effet Heineken étoile rouge. Mais l'effet Indochine, tout à fait, on va l'appeler comme ça maintenant. Non, délibéré, merci. Est-ce que c'est simplement un souci personnel?
Je pense que sincèrement, c'est un intérêt personnel. Non, pour les femmes. Pour les femmes de tête. Non, mais pour les femmes de caractère, je veux dire. Mais je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps, en fait. Je pense que... Je vais pas étaler mes histoires sentimentales, mais à chaque fois que j'ai été amoureux, j'en ai pris pour la gueule par des gonzesses qui avaient du caractère. Donc, c'est ce qui m'attire. Non, je pense que, ouais, il y a de ça un peu quand même. Après, d'une part, je dirais presque que c'est très. L'antisexisme et le féminisme sont très répandus dans le monde du fanzine, contrairement à ce que tu dis. Mais je pense que c'est plus rare, c'est dans des fanzines où il y a aussi peu de femmes dans l'équipe. Parce que dans Chéri Bibi, et ça c'est pas un choix, hein, c'est les faits, hein, on n'a pas fait une politique de quotas, voilà. Il y a des femmes qui participent au Chéri Bibi, hein, à divers degrés, mais elles sont quand même minoritaires dans l'équipe. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est comme ça, puis voilà. Après, c'est marrant parce que j'ai passé une semaine au super festival aux Rencontres Dionysiennes de Saint-Denis au cinéma à l'écran
le week-end dernier.
Femmes, et j'ai revu notamment les camarades de la librairie Violette Anco qui nous diffusent. Ce qui n'est pas évident parce qu'on est ni un zine fait par des femmes majoritairement, ni un zine, je sais pas, de militants homo, lesbiens ou féministes militants, enfin je veux dire, dans le sens revendiqué comme tel. Mais je pense qu'elles ont vu, voilà, mais je les préviens toujours, je leur dis, bah voilà, ce numéro. n'y a pas vraiment de sujet qui... C'est... Je ne fais pas un truc de quota, je ne me dis pas, tiens, il faut qu'il y ait absolument une gonzesse interviewée. Ou...
Ça c'est vient... justement ce côté naturel que je disais, parce que dans les fanzines, effectivement, il y a de l'antisexisme, etc., mais il y a des articles militants qui tombent comme, voilà, qui sont très clairement posés comme tels. Là, je trouve qu'il y a un côté naturel à ça. Et c'est assez rare d'avoir ce petit fond naturel.
Ça
n'empêche pas de mettre du nibar et du porno.
Parler de ça. Ça n'empêche pas du tout. C'est d'ailleurs, voilà, c'est ça plaît à nos lectrices lesbiennes, hein, qui du nibar. D'abord. Bah oui, tout à fait. Il y a aussi des hommes nus. Mais bon, par exemple, c'est un sujet. Par exemple, j'ai un projet là. Souvent dans les bouquins, j'aime beaucoup les bouquins de pochettes de disques. Enfin, j'aime beaucoup les pochettes de disques en général. Donc, je chope plusieurs bouquins, les recueils de pochettes de disques. Et par exemple, il y en a deux, trois qui existent à ma connaissance, même peut-être plus, des bouquins sur les pochettes de disques érotiques. Mmh. Et je remarque qu'à chaque fois, il y a de la funk, du rock, machin. Il y a quasiment jamais de reggae. Or, moi, j'en ai quand même pas mal. Assez gratiné. Et je m'étais dit toujours que, comme je dois toujours faire la suite dans le numéro 7, j'avais fait un gros truc sur le road reggae, sur la chanson de cul en Jamaïque, qui amène un début de dossier que j'ai reporté un peu la suite.
C'est comme ça que tu traduis
road
reggae, en fait.
Road reggae, R-U-D. Road reggae, pas roots reggae. Et je veux faire, bon, donc je veux faire des pages un peu portfolio. Je me dis, c'est un projet dans un prochain, avec des pochettes un peu sexy de reggae. Mais je vois pas pourquoi ce serait que des pochettes sexy avec des nanas. Parce que j'ai des pochettes, je sais pas moi, un album de Bruce Ruffin ou un album de Jimmy Cliff. Mm-hmm. Un album de Jimmy Cliff où il sort de l'eau torse nu avec... Voilà. Bon, moi, personnellement, je suis assez hétéro, donc ça ne m'en touche pas une, comme on dit à l'autre. Mais c'est, voilà, il y a un côté...
un souci du sexy sans sexisme.
Non, mais c'est intéressant de... Je sais pas, c'est...
Bah, c'est une pochette qui a un potentiel érotique pour pas mal de gens, finalement.
Oui, voilà. Donc, c'est, tu penses pas qu'à... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est un souci naturel.
Mais c'est ça, justement, qui m'a marqué, c'est que ça a l'air très naturel.
Mais après, par contre, c'est vrai. Il y a une série d'articles dont j'avais arrêté dans le numéro 8, j'ai recommencé dans le dernier numéro avec un truc sur une série de films de femmes en prison superbes japonais qui s'appelle les Female Prisoner Scorpion avec Meiko Kaji. Il y a une série que j'ai fait à partir du numéro 5 qui s'appelle Délivrez-nous du mal. Avec un subtil jeu de mots.
Oui. Ouais,
voilà. bon, et voilà, sur la part.
C'est une façon d'écrire mal, Jean-Mathias.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, d'autre manière, ce qui m'intéresse au niveau politique, c'est quelle part de choses progressistes on trouve dans des genres populaires généralement vilipendés. Donc, pour utiliser un mot sympathique. Donc, c'est-à-dire dans le cinéma. On a fait un truc sur les westerns Zapata, sur les westerns révolutionnaires, on a fait un truc sur le kung-fu syndicaliste.
Sur l'édition de La Brigandine aussi, sur les justement, où c'est mis en avant ce côté,
Van Hegem qui écrivait, Bissou, Noël Godin, tout ça. Voilà, c'est intéressant. Et là, dans le dernier, sur Jean Jonas, justement, je t'en parlais quand même sur les ondes de Radio Libertaire, qui est qui était un chanteur anarchiste, hélas décédé trop jeune, qui, sous pseudonyme, a surtout été un énorme auteur d'une trentaine de bouquins et romans photo-porno, de scénarios et de dialogues de films X, avec des noms pas possibles, comme donc, je sais plus, Sois belle et tête-moi, et qui m'aime
bon calembour,
les nains préfèrent les blondes, enfin, bref. Voilà. Et ça n'empêchait pas. Et en plus, pour en avoir lu quelques-uns de ces romans, je me suis aperçu que c'était, c'était totalement, d'une part bi, voire zoophile, incestueux, etc. Mais c'était, comme par hasard, c'était toujours des femmes soit issues de milieux bourgeois, soit issues de milieux populaires, qui s'affranchissaient un peu du carcan conjugal à travers l'expression d'une sexualité libérée. Mmh. Et c'est assez marrant. Et donc la plupart de ceux que j'ai lus, j'en ai pas lu beaucoup, mais avaient un personnage féminin, fort, Donc, je pense que c'est un souci qui peut se retrouver au-delà d'une quelconque pudibonderie. Et puis, l'antisexisme, c'est pas forcément la ceinture de chasteté, tu vois.
Surtout pas.
Donc, c'est intéressant, les personnages. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc très important, c'est que, c'est ce que dit Irene Zellinger, je l'avais cité dans le gros dossier que j'avais fait dans le numéro 7 sur les films de Rape and Revenge, donc, où il y a une agression sexuelle qui est suivie de la vengeance de la victime, généralement. C'est que si... Irene Zellinger dit un truc très très bien, je trouve, c'est que si tu vois pas... t'es issu de que tu sois une femme ou issu d'une minorité XY ou d'une, enfin dans un sens quelconque de ce terme-là, et que tu vois pas un exemple de enfin, je sais pas moi, si tu peux pas savoir que tu fais de la boxe si tu vois pas de femme boxeuse, etc. Donc c'est aussi de, je trouve c'est assez intéressant. Regarde le punk par exemple, est un tout con, les jeunes prolos ils se sont dit tiens, on n'a pas besoin d'avoir une super guitare super chère et de faire des solos de ouf en sachant super jouer comme Van Halen ou je sais pas qui, quel connard de l'époque du rock progressif pour faire de la musique. Et ben c'est le même principe.
Tu nous mets un morceau de Magma, Michel ?
Non, jamais écouté Magma.
Non, surtout les batteurs d'extrême droite.
Ah, ça, je savais pas ça. Moi, c'était un groupe prétentieux.
Vendère, ne suce que si l'on s'en sert.
Oui, bon, moi, je fais partie des gens dans la polémique. Est-ce que Philippe Vendère est d'extrême droite ?
Christian,
bref. Ouais.
Il est très con, en tout cas. Mais. Qui a dit ça?
Est-ce qu'on fait une
petite pause musicale? Est-ce que tu as prévu quelque chose, Michel? Sinon, on enchaîne sur autre chose temps que.
Non, moi, j'ai rien prévu du tout.
Ah, bah, non, c'est une règle, pas du tout efficace.
C'est absolument pas efficace.
Alors, soit vous enchaînez un petit peu, soit.
Alors, on peut enchaîner, parce que moi, j'avais une question là, parce qu'on était sur l'antisexisme. Il y a aussi, dans le dernier numéro, là, je vois que t'as une interview de figure, pour le coup, virile, mais correcte, pour être dire. Donc,
voire viriliste
en la personne de Jean-Marc Rouillant notamment. Et j'aime beaucoup, alors, dans la présentation de départ, il y a effectivement c'est la manière dont tu as introduit l'interview en expliquant que effectivement dans le cadre de Jean-Marc Rouillant, donc tu rappelles voilà l'ancien membre d'Action Directe, effectivement qui a eu une certaine interprétation de la phrase de Jean-Yann, tout le monde veut sauver la planète mais personne veut descendre les poubelles. Donc ça vous donne un peu la tonalité.
C'est Jean-Yann qui l'a dit, hein. Moi,
c'est Jean-Yann qui l'a dit,
surtout dans ces temps de délation et d'apologie du terrorisme. Je n'ai rien à voir avec cette citation, c'est de Jean-Yann.
C'est de Jean-Yann, elle est entre guillemets, il n'y a aucune ambiguïté.
Ça veut juste dire que, voilà, il faut à un moment donné. Voilà, il y a plein de gens qui ont des grandes gueules, mais qui mettent pas la main à la pâte. Hein, comme voilà. C'est antisexiste, voilà.
Voilà. Et donc, effectivement, c'est suppose. Je fais
tous mes mots, donc.
Donc, tu te dis. Donc, effectivement, donc, on doit en induire que, du coup, tu considères effectivement l'Action Directe comme une branche à part de la culture populaire.
Non, nous, on prend les choses, il y a une ligne éditoriale, on prend les choses par la culture. Donc, si on a interviewé Jean-Marc Rouillant, c'est en tant qu'écrivain. On l'a interviewé en plus, et ça je tiens à dire un petit mot dessus, conjointement en même temps en 2012. Donc en 2012, Jean-Marc Rouillant, c'était en septembre 2012, il venait de sortir depuis quelques mois seulement de prison. Il est tricard, c'est-à-dire qu'il a des interdictions. Par exemple, quand il est venu à Paris, il ne pouvait pas aller en Seine-Saint-Denis. Enfin, bon, voilà, il est tricard sur certains départements. Et c'était conjointement avec Abdelhafed Ben Othman, que nous n'avons pas interviewé en tant que braqueur, mais en tant qu'écrivain. Donc, voilà, si on interviewe des personnages comme ça, c'est parce qu'on aime qu'est-ce qu'ils écrivent. Ça ne veut pas dire, d'une part, mais ça, c'est pas pour me défausser, hein, puisque je publie un truc, mais ça ne veut pas dire, d'une part, qu'on approuve stricto sensu tout ce qu'on fait. Hein. Je rappelle quand même qu'on a interviewé Wanda Jackson, qui est quand même une chrétienne très fervente, qui fait des prêches et tout, mais qui a été aussi une des premières femmes de l'histoire du rock'n'roll blanc, qui a eu du succès, et qui était une des seules blanches à tourner avec des musiciens noirs, à une époque dans les villes du Sud. On a interviewé Prince Buster, qui a financé la plupart de la construction des mosquées en Jamaïque, mais qui a été un activiste incroyable des droits aussi du peuple, voilà, de la cause du peuple en Jamaïque. On interviewe des gens sans forcément ni dévoiler à quelle est la part des idées qu'on
oui. C'est pas le but.
On partage, c'est pas le but, c'est de leur donner la parole à, le plus librement possible, en sachant que pour Royan, il y a des choses
qu'il ne peut pas dire.
Et on n'était pas. Moi, j'ai fait relire l'interview, j'ai fait relire l'interview à Ben Othman, à Afed aussi. Voilà, donc c'est pour dire ça, c'est pas du tout pour se défoncer, puisqu'on assume par contre tout ce qui est. Moi j'ai souvent lu des fanzines, des trucs où. Oui, les propos des gens qui.
Non, je vais jamais
interviewer, laisser passer quelqu'un qui te sortirait un truc homophobe, sexiste, raciste, antisémite, anti-musulman ou anti. Bon voilà quoi. Même anti-commis, j'aurais du mal.
Et là, l'interview, en l'occurrence, c'est sur
la question. Mais après, la discussion est libre. Il parle de la prison, c'est marrant parce qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Quand ils ont fait l'interview, ils s'étaient juste croisés en prison. C'était la première fois qu'ils se revoyaient. Ils s'étaient vraiment croisés en prison dans un transfert. Donc, tu vois, entre.
Vite fait, oui.
Vite fait, et puis bien encadré, tu vois. Bon, ils se connaissaient évidemment, puisque Afed fait l'envolée, donc l'émission sur Fréquence Paris Pluriel et le journal à soutenir évidemment. Et évidemment, c'est par Radio Libertaire que je vais expliciter le parcours de Rouillant ces dernières années. Donc voilà, c'était de faire une rencontre qui n'était pas forcément évidente, parce qu'il y a aussi des. Ça n'intervient pas dans l'interview, mais. Voilà, c'est pas forcément évident, ils sont assez différents les uns les autres. Donc ça a été un moment fraternel, très sympa. Moi je connaissais déjà Afed depuis de longues années. Rouillant, c'était la première fois. On l'avait invité, donc c'était dans le cadre du festival En Première Ligne qu'on fait chaque année depuis 4 ans maintenant à Ivry-sur-Seine, qui est un festival de littérature et lutte sociale, où cette année on a interviewé notamment John King,
j'y étais invité. C'était vachement intéressant.
James Salis, Afed est un. Et je veux dire un mot, j'en profite pour ça, parce que vous jouez, si les lecteurs ne savent pas, donc voilà, Afed pour l'instant est hospitalisé depuis une semaine, dans un état assez grave, même s'il est pour l'instant tiré d'affaire. Il a eu une attaque cardiaque, voilà, avec sa quatrième. Et donc on attend de ces, enfin, on a de ces nouvelles pour certains assez quotidiennement, mais voilà, bon, il s'en remet un peu, ça va un peu mieux. Je vais pas trop en dire non plus, à regarder à lui qu'est-ce que qu'il veut communiquer, mais bon, voilà, une grande pensée pour le camarade Afed, en sachant quand même que sa première attaque cardiaque, il l'a eu en prison, qu'ils ont mis 12 jours à l'extraire de sa cellule pour aller le soigner, que du coup son cœur depuis fonctionnait à 30% de ses capacités, le reste était nécrosé le temps qu'il le laisse pourrir en cellule, et que l'État français est une grosse merde, entièrement responsable de ce qui arrive au camarade qui n'a, comme vous le savez peut-être pas, qui est sans papier et à la fois inexpulsable. Heureusement, pour le coup, nous ne sommes pas dans certains pays encore plus barbares que le nôtre. Quand tu arrives à l'hôpital en état d'urgence, on te soigne avant de se demander si.
Si t'as du fric, voilà. Si t'as une assurance.
Donc il a été. Enfin, il est soigné, voilà. On peut féliciter ce qui reste de service public en France et défendre ce qui reste de service public en France aussi.
On les félicite, on les défend.
J'en profite d'ailleurs pour dire que ceux qui passeraient à côté du danger que représente le pacte de responsabilité se devraient s'intéresser à la question. Voilà.
Qui aura ses impacts sur la culture populaire.
Non, mais bien sûr, mais tu sais, c'est ça ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, dans Chablis, je laisse la parole aux autres qui en parlent. Je vais pas faire une tribune de mes idées politiques, etc. Mais à un moment donné, tout est lié, hein, jusqu'à dire que tout est politique ou pas, mais tout est lié, les choses sont liées, voilà. Tu peux, voilà,
t'as un dernier aspect dont on n'a pas parlé aussi dans
Attends, il y avait José qui voulait passer de la musique. José. Mais je sais pas s'il est peut-être parti.
Non, il est parti.
Il y a Willy qui est.
Il est parti.
Ah, Will. Il y a Willy qui est arrivé.
ou
direct.
Ah, c'est du lourd.
Oui, c'est un aspect de la revue, on en a pas parlé. Il y a aussi de la BD aussi beaucoup.
Régulièrement. Il y a une bande régulière, j'ai l'impression aussi.
Il y a deux bandes régulières. Il y a Verminax, le Gredin de l'ombre, qui est un personnage en fait qui est fait par donc Thomas Sicard. Éminent dessinateur de BD et éminent tatoueur, Fatalitas, Métro Croix de Chavaux à Montreuil, son salon de tatouage, un peu de copinage. Et donc, en fait, dès le début, comme on est tous les deux fans des romans feuilletons début 20e siècle, fin 19e, début 20e, on s'était dit, faut un roman feuilleton, mais un roman feuilleton littéraire, c'était trop compliqué d'être... pour un suivi de numéro en numéro. Donc on a calculé que dans 10 ans rythme d'apparition, dans 10 ans il y aura la fin de l'histoire.
Le suspense est entier.
Et puis il y a Gommet aussi, le camarade Gommet qui fait quelques strips réguliers. Et puis après il y a d'autres. Dans celui-là il y a 5 pages, une histoire courte de Nina Bunjevac, qui est une dessinatrice canadienne d'origine serbe. Enfin, yougoslave, avant la partition, avant le charcutage du pays même, et qui a notamment donc sorti 2 bouquins chez Ici Même, qui est un éditeur, une éditrice indépendante, qui s'appelle donc Heartless, l'un, et Fatherland, son dernier, qui raconte l'histoire de son père, qui était un militant anticommuniste qui est réfugié au Canada, qui s'est fait sauter en préparant une bombe contre des ambassades, enfin des trucs de Yougoslavie. Et sa mère, en fait, la mère de Nina Bunjevac, a fui en Yougoslavie, ce père, enfin ce mari et ce père qui n'était pas tyrannique en soi, mais qui commençait déjà à être bien givré, voilà, avec ses filles. Et donc elle raconte cette histoire, c'est assez superbe.
Alors, peut-être pour donner un petit peu envie, si vous n'avez pas encore envie de lire Chéri Bibi, ça m'étonnerait, quoi, mais quelques petits articles pris au hasard. Je parle de mémoire, dans le genre d'article, il y avait le reggae et puis la SF, ou en tout cas la conquête de l'espace. Assez rigolo,
ça, c'était
là.
Dans le numéro 8.
Voilà, ouais. C'est une petite page où il y avait des pochettes de disques thématiques. Et tout ce qui avait un rapport avec le reggae et puis les petits hommes verts ou les planètes lointaines. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une super interview de Screaming Jay Hawkins de je sais pas combien
c'était
de pages,
pas une interview,
là. C'est énorme.
Je regrette, c'était pas une interview.
C'était réécrit, ouais.
C'est un gros dossier. Numéro 6. J'adore Screaming Jay Hawkins. C'est un gros dossier sur Screaming Jay Hawkins. Mais dans le dernier, il y a les camarades de Marseille, Isa et Zine, qui font le Western, en fait. Ils font des projections à Marseille. Des premiers films, donc ils ont fait tout un dossier sous forme très drôle d'une fausse interview de gens qui sont morts depuis déjà des lustres, pour faire un dossier sur les premiers westerns européens, quasiment presque les premiers westerns de l'histoire du cinéma, qui étaient français, en fait, qui étaient l'œuvre de Joe Hamann, qui était tourné en Camargue. Et en fait, il y a 8 pages, un dossier assez dense avec plein de photos d'archives, de 8 pages de ces films qui étaient des westerns totalement fêlés, avec des cascades et tout. Joe Hamann, c'était un mec qui s'était retrouvé aux États-Unis un peu par hasard, tout début du 19e siècle, vers 1903-1906. Il s'était retrouvé en fait à se balader. Il a un peu fugué son père, qui était un peu un commercial, je sais plus quoi, qui était allé aux États-Unis pour affaires, et il s'était retrouvé à faire le cow-boy dans des ranchs et à se lier d'amitié avec les Sioux d'une réserve, la réserve de Pine Ridge. Et il a gardé ses contacts pendant des années, il les a fait venir en Camargue, enfin il les a retrouvés en Camargue quand ces Sioux-là s'étaient fait embaucher par Buffalo Bill, qui tournait en Europe avec
ce grand cirque,
le Wild machin là. Et là, il y a une connexion qui s'est faite avec les cavaliers, là, les espèces de cow-boys camarguais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les gardiens provinciaux. Il y a une connexion qui s'est faite. Et puis,
provinciaux,
je voulais dire. Désolé, je n'utilise plus
désolé
le mot.
Désolé pour les gens qui nous écoutent en région.
Ça capte pas.
Provinciaux, tout à fait. Ils ont fait des films absolument. Et donc, ça, c'est une histoire assez formidable. D'accord. J'aime bien ce genre de truc totalement improbable aussi.
Bon, alors officiellement il est 8h30, donc c'est la place entre chien et loup. Bon, la barrière va être un petit peu perméable là, parce qu'on va peut-être rester un petit peu, hein, ça a l'air sympa. Puis il reste quelques...
Oui.
Voilà, que petit machin à bord. Et donc voilà, bah, on va écouter un peu de musique. Et puis bah, c'était Jeudi Noir, merci, à bientôt et à tout de suite.
Voilà, non, c'est entre chien et loup, c'est Willy qui lance la musique.